Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Joie, joie, joie. L'ami Margot est là. Bonjour Margot.
Ouais.
On fait un rythme.
Je suis trop contente d'être là.
Et moi aussi. Ah, vous aviez la rime qui va bien. Bonjour Margot.
Bonjour Jeannot.
Ça va Margot?
Bonjour tout le monde. Oui, ça va, merci et vous?
Ouais, quel plaisir de recroiser votre route sur notre antenne.
Avec joie et réciprocité.
Même si pour ne rien vous cacher, on se croise évidemment dans les studios de Radio MDM, mais ça nous manque un petit peu de ces rendez-vous. Et donc, Margot Labarthe, qui œuvre tous les jeudis, un jeudi sur deux, pardon, entre 11h et 13h, dans ses Margot Guettes. Il vient nous faire un petit coucou, Margot, pour évoquer quelques aventures. Dis-moi, Margot.
Oui, la nouvelle formule de la chronique reconnaissante proposée par Isabelle. Vous savez, on a deux chroniqueuses des Jardins reconnaissants, qui sont Lydie et Isabelle. Lydie qui s'occupe de nous compter les bons gestes chaque mois à mettre en place au jardin pour la faune, la flore et tout ce qui s'ensuit. Et Isabelle qui a choisi cette année de nous parler des arbres. Donc Isabelle, pour cette première sous ce format, est partie à la rencontre de David, Aurélie et leur fille Camille, les Jardins Naïfs, un projet de lien social autour des végétaux, un lieu nourricier et expérimental où se mêlent légumes, aromatiques et arbres fruitiers.
La planète brûle, l'Amazonie tousse et le rapport du GIEC vous donne des insomnies. Venez lutter avec nous contre l'éco-anxiété en posant les pieds sur notre territoire auprès des hommes et des femmes qui plantent des arbres. Planter un arbre, c'est un acte de confiance en l'avenir. Ces hommes et ces femmes préparent l'oxygène de demain et nous offrent dès aujourd'hui une respiration plus que bienvenue. À l'ombre des arbres, c'est la nouvelle chronique des Jardins reconnaissants et nous sommes tout particulièrement heureux de démarrer cette nouvelle aventure à Carcarès aujourd'hui auprès de la joyeuse et dynamique équipe des Jardins Naïfs. Un grand merci à vous pour votre accueil. Alors je vais vous laisser vous présenter et surtout nous dire un peu plus sur cette aventure qui a commencé en 2016 déjà dans le nord des Landes pour se développer pleinement jusqu'en 2017 ici à Carcarès-Sainte-Croix dans un site, il faut le dire, qui est absolument magnifique.
Oui, c'est un petit havre de paix. Alors ben, nous c'est les Jardins Naïfs, donc moi c'est Aurélie, j'ai 37 ans. Oui. 37 ans et ça y est, ça commence. Et donc, on a créé l'association donc, en 2016 dans la continuité d'un projet agricole qu'on portait, donc la création d'une ferme agro-silvopastorale. Donc, on est parti sur ce projet-là en 2012. L'asso est né en 2016, donc à Lu sur le nord des Landes. Et à force de chercher des terres, on est arrivé ici à Carcarès-Sainte-Croix par le biais d'une petite annonce sur la SAFER et d'un conseiller qui a cru en nous. Et voilà, on a acheté ce site de 10 hectares, boisé en partie de peupliers, entre autres. Et on y est revenu avec notre jardin et toute l'équipe de l'association.
Sur l'association, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous?
Un petit noyau d'une dizaine.
Ouais, 10-15 personnes, on va dire 15 actifs et une cinquantaine d'adhérents.
De membres.
Il y a aussi de nombreux animaux qui sont là et qui sont importants dans votre quotidien.
Ils font partie de l'équipe, hein, faut pas les oublier, ouais. Donc chiens, chats, poules, canards, chevaux, tout ça gravite joyeusement au milieu du jardin, entre autres.
Alors quand vous êtes arrivé sur le site, donc en 2017, j'imagine beaucoup de travail pour structurer l'espace, pour se faire connaître. Petit à petit, le projet prend corps. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même la variété des activités que vous avez proposées toutes ces dernières années. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus?
À la base, le projet de l'association, le but de l'association était le renforcement du lien social. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne voulait pas se faire enfermer dans un secteur en particulier, alors que ce soit sur l'événementiel, sur la culture, sur le jardinage, sur ci, sur là, la pépinière et tout ça. On voulait un peu toucher un peu à tout et surtout avoir des adhérents qui soient capables aussi d'amener leur propre savoir, leur propre connaissance et les partager avec d'autres adhérents, voire avec nous si nous n'étions pas formés sur l'expertise de la personne en question, et ça s'est fait à plusieurs reprises. On a eu des gens qui nous ont permis d'avancer sur des sujets très rapidement grâce à leur expertise.
Oui, puis après, je crois qu'on a aussi pas mal d'idées. Donc, il faut arriver à tout structurer. Et puis, quand on est dans des projets comme ça, on se laisse porter aussi. Donc, voilà, au fur et à mesure des années, on a rajouté d'autres cordes à notre arc. Et puis, c'est surtout au fur et à mesure des rencontres et de l'équipe qui nous rejoint et des compétences de chacun. Donc l'idée, c'est que chacun puisse proposer ce qu'il a envie. Et donc, ça fait naître des activités. Ça va de la visite à l'animation dans les écoles, à la production de plants, à les jardins de fleurs, la transformation des médicinales, les jardins, les paniers dans le jardin, pour les adhérents.
Ouais, vous me disiez qu'il y avait une vingtaine de paniers par semaine pendant longtemps.
Ouais, sur le plus gros de la production, on est allé effectivement avec la totalité du jardin en culture jusqu'à 20 paniers semaine, ce qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Et le projet de départ, c'était aussi d'inciter les gens à de l'autonomie. Ouais. Donc, on a beaucoup d'adhérents qui font leur jardin maintenant, pour notre plus grand bonheur. Donc, il y a moins de demandes au niveau du jardin. Et c'est vrai que c'est quand même une grosse, grosse charge de travail. Donc, si on veut pouvoir aussi se consacrer à d'autres choses, il faut réorienter et restructurer. Mais le jardin est toujours là. Il produit pour nous, pour les adhérents et pour tous les ateliers et les journées d'animation. Chacun y trouve son bonheur. Donc...
Et finalement, la mission est en partie accomplie. Si les gens font le potager par eux-mêmes et qu'ils découvrent aussi un peu un chemin d'autonomie.
On a atteint, je crois, le premier objectif, c'était la sensibilisation à une forme d'autonomie.
Ouais. En y repensant, sur les 10 ans, aujourd'hui, on dirait, on passe la vitesse un peu supérieure, mais l'association, en 10 ans, a fait le job.
Le job a été fait,
parce qu'à la base, c'était un peu... C'était pas un peu une revanche l'association, mais on voulait absolument marquer le coup en faisant quelque chose. L'entreprise c'était compliqué, l'association c'était le bon format. Et en 10 ans, en y repensant, le job est fait. On a bien bossé même.
C'est vrai. Si on réfléchit à tous les petits jardins qui se sont montés,
on a fédéré des gens, chouette, on a rencontré des gens, on a sympathisé, on est devenu amis avec certains, c'est devenu des proches de certains. Et c'est vrai que oui, le renforcement du lien social est là, les techniques qu'on a voulu partager et amener aux gens sont là aussi. On a créé de l'autonomie chez les gens en les poussant à faire leur jardin, à recultiver leurs graines, à être autonomes et à s'équiper entre eux en se partageant les graines, en faisant des échanges et tout ça. Et c'est vrai que oui, je ne vais pas dire que la mission est accomplie, mais aujourd'hui, on a oui,
c'est un premier palier. Oui, voilà, maintenant,
ouais, mais il y a de quoi, être fier. Alors en 2021, on peut dire qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie, puisque l'Assemblée Générale formalise finalement l'arrivée de ces nouveaux visages dans la vie de l'association. Alors j'ai fouillé un peu la page Facebook Les Jardins Naïfs, une page sur laquelle on trouve toutes les informations de l'association. Alors j'ai vu qu'il y avait Aline, Francine, Marie-Cécile, Dominique. On peut les découvrir, mais moi je vois surtout que finalement vous avez constitué une équipe avec des personnes qui ont cette énergie et cette dynamique qui vous caractérise. Alors j'ai noté aromathérapie, sophrologie, médiation familiale, médiation animale, c'est quand même un feu d'artifice de compétences et de passion. On peut dire que vous étiez fait pour vous rencontrer.
Alors c'est un parcours, je crois que c'est aussi des cheminements au gré du développement de l'association, c'est des rencontres, c'est des gens avec qui on a créé des liens et avec qui on a partagé des moments différents. Et ils ont chacun leur univers, mais finalement, il y a toujours le même fil conducteur qui est le côté nature, environnement, bien-être, bien manger, bien vivre. Et c'était une évidence, finalement, quand on a soumis l'idée d'ouvrir la gouvernance de l'association. Il n'y a même pas eu à lancer de recrutement, proposer, ça s'est fait tout seul. Et ça va effectivement de Francine qui fait de la médiation par l'animal, Domi de l'aromathérapie, Aline va être sur la sophrologie, on a Marie-Cécile qui est animatrice radio et qui me crée tout le côté dynamique, communication. Je crois que j'ai fait le tour, mais c'est une équipe essentiellement féminine. Derrière notre général...
Oui, je suis le seul homme... oui, c'est vrai qu'on en a parlé, on rompu comme ça, et Aurélie m'a fait des propositions, je lui ai fait des propositions, et à chaque fois, parfait, oui, Aline, parfait, Francine, parfait, Marie-Cécile, on n'avait pas pensé à Marie-Cécile, c'était parfait, et c'est vrai que Dominique, pareil, et... c'est des gens qui s'inscrivent complètement dedans, quoi. Je pense qu'on a des atomes crochus, atomes crochus, tout simplement, parce qu'on voit bien le monde tel qu'il est,
On partage les mêmes valeurs.
Il y a plein de petits
valeurs,
détails,
en fait.
Qui font qu'on est touché par les mêmes, valeurs, par les mêmes choses, quoi. Donc ça forcément, ça marche, quoi.
Une belle équipe.
Ouais,
une belle équipe.
Une chouette équipe à qui on peut maintenant déléguer et sur qui on peut compter.
Vraiment. C'est bien. Il y a une autre personne qui est très très importante dans l'histoire des Jardins Naïfs, c'est Robert Mouler,
oui.
qui malheureusement vient de décéder il y a quelques semaines.
Oui.
Il est important pour vous, il est précieux dans votre historique, depuis votre installation sur la commune avec un vécu et des connaissances partagées, mais il est aussi finalement à la source dans la réalisation d'un projet important et qui vous tient à cœur. On va pouvoir parler.
Oui, la pépinière, je pense qu'elle se serait fait sans Robert, mais sur une beaucoup plus longue échéance parce que le manque de confiance tout simplement, et Robert a été là, c'est un ancien, donc c'est un puits de science, c'est une bibliothèque quoi, donc c'était malheureusement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a montré les choses telles qu'il les a vécues, telles qu'on lui a appris, en évitant de me faire refaire ses erreurs, donc on gagnait énormément de temps dans ces cas-là, et la connaissance sur le monde des fruitiers de Robert, il est décédé à plus de 80 ans et il avait au moins 40 ans, plus de 40 ans d'expérience dans tous les fruitiers. Donc, et les rosiers aussi, c'est vrai, qu'on n'en parlait pas souvent, mais les rosiers aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a décidé. Moi, je me suis décidé à faire cette pépinière et faire un verger grâce à Robert. Parce que, avec son départ, c'était un peu. J'allais souvent chez lui. Donc, il n'y avait pas d'arbres ici en particulier. Chez lui, il y avait un verger. Et vu qu'il est parti, maintenant, quid de ce verger ? Et moi, ça me faisait mal au cœur de perdre tout ce savoir, toutes ces années, tous les moments qu'on a passés avec Camille, aller ramasser des mirabelles chez lui et tout ça. Et c'est vrai que oui, ça fait partie de nous parce que c'était, je pense que Robert était aussi un grand naïf et il rentrait bien dans le cadre du jardin naïf parce que c'était une personne ouverte, prête au changement, prête à accepter des choses qui sont plus de son époque et tout ça. Donc moi, il m'a posé énormément de questions sur les purins, sur les plantes qu'on utilisait pour détourner les plantes répulsives, pour détourner les fourmis qui élèvent les pucerons dans les arbres et tout ça. Et c'est vrai que oui, alors on a parlé consoude, on a parlé tanaisie, on a parlé toutes les plantes que nous on utilise couramment. Et c'est vrai que c'était pas du tout, c'était quelqu'un qui était très ouvert à la discussion. Donc très enrichissant, qu'on a passé 3-4 ans, très très enrichissant, et malheureusement, tout a une fin, un jour ou l'autre, c'est un ami qui s'en va.
Avec la continuité finalement de cette passion.
Oui, bien sûr.
C'est une certaine façon, c'est lui rendre hommage aussi. C'est que le projet, il serait, comme dit David, on l'aurait fait de toute façon, mais là, c'est fait que ces derniers mois, ça a donné une impulsion aussi, et voilà, et c'est un petit clin d'œil. Et il faut savoir que la plupart des arbres fruitiers qui sont implantés déjà ici, c'est lui qui les a implantés. Donc il reste avec nous. Et l'idée, c'est de faire perdurer ce savoir-là. Ça s'inscrit complètement dans l'association, c'est de transmettre les savoirs et de les faire perdurer.
Ouais.
Donc le travail de David aujourd'hui, c'est de faire perdurer ce côté.
C'était prévu. J'avais l'intention de monter la pépinière et faire des arbres fruitiers. Mais le verger, qu'on va nommer sûrement le verger Robert Mouler, ça a été son décès qui a vraiment été un déclic pour pas perdre tout ce savoir et surtout tous ces bons moments, pour se rappeler tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Même la petite a été très, très impliquée avec nous, alors que finalement, les choses de la terre, la petite, ça ne l'intéresse pas trop. Mais Robert avait des avantages non négligeables. Il y avait
allez
beaucoup
manger les fruits, manger les fruits, c'était quand même sympa.
Et puis c'est un vrai bonheur. Je trouve que ramasser des fruits comme ça, c'est très, très enfantin. C'est quelque chose que tout le monde a vécu enfant. Et moi, ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Et c'est vrai que partager ça avec des gens comme Robert, oui, c'était exceptionnel.
On le voit ici, le côté fruits, on a une allée de framboisiers. Et c'est vrai que quand les gens viennent visiter, je laisse toujours les enfants libres dans les framboisiers. Et c'est très drôle de voir ces bouilles recouvertes de les bouches rouges de framboises.
C'est
universel. Donc,
Et du coup, la pépinière, les statues ont été créées là début janvier.
Oui.
Et donc, le travail va commencer
très rapidement. Là, il me reste, quelques bricoles. Alors, branchement électrique, branchement hydraulique pour amener l'irrigation et tout ça. Et puis, on peut démarrer les semis. Alors, on va démarrer les aubergines et
piment,
aubergines, poivrons et tout ça. Et puis, on va lancer les graines de fleurs au printemps. On a deux tables chauffantes pour faire les semis. Et puis après, le standard de la pépinière, c'est-à-dire les graminées, les florales, les aromatiques, les médicinales, les potagères et les fruitiers.
Et le
fruitier qu'on va commencer à greffer cette année. Donc il y aura des sions de 9 mois en fin d'année. Et l'année prochaine, par contre, oui, on va commencer les choses sérieuses, c'est-à-dire que les premiers arbres ont passé leur année, donc de suite, bah, ça fait des croissances bien plus rapides et bien plus sympas pour les clients, parce que c'est vrai que la première année, le sillon, bah, c'est pas très joli, ça fournit pas de fruits, et il faut quelques années avant qu'un arbre puisse fournir, quoi. Donc on arrive aujourd'hui à les faire fournir assez rapidement des fruits, au bout de 2-3 ans. Mais il y a quand même un laps de temps entre la plantation du porte-greffe et les premiers fruits. Ça,
un peu de patience.
Voilà. Et c'est ça, mais c'est aussi la réalité du cycle de la vie. Exactement. Et effectivement, le temps de l'arbre, ce n'est pas nécessairement le temps...
Il lui faut ce temps physiologiquement. L'arbre a besoin de ce temps déjà pour créer son système racinaire. Et surtout pour s'ancrer dans le sol, puiser les minéraux et surtout résister aux aléas du temps. Et physiologiquement, il ne pourra fleurir et fructifier parce que physiquement, il pourra le faire. On peut faire fructifier des arbres très rapidement, mais c'est très très mauvais pour eux. Il vaut mieux prendre le temps que les choses se fassent normalement, que les cicatrices se referment, que les greffes partent, que les fruits puissent se poser dessus, que voilà, c'est tout un processus qui demande plusieurs années.
Bon, mais on vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite alors dans cette belle aventure. Et alors avec cette bonne nouvelle de la création de la pépinière des Jardins Naïfs, on va pouvoir s'approcher du cœur de cette chronique. On va parler des arbres avec la richesse de vos regards et de votre vécu.
On va en parler dans un instant avec Isabelle et l'équipe des Jardins Reconnaissants. Mais pour l'heure, on fait notre traditionnelle pause musicale des chroniques reconnaissantes et c'est Thomas Fersen qui nous rejoint pour fêter ça.
L'heure qu'on ne vous donnera pas exceptionnellement.
Elle est autoritaire, elle veut que j'enlève mon slip. Avec ses courants d'air, je vais attraper la grippe. Elle dit que si j'ai la grippe, faut que je me mette au lit et que je lui donne mon slip. C'est l'objet du conflit, c'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien, de tout on vous déleste. C'est mon slip et j'y tiens. Elle veut que j'enlève mon slip pour aller faire la sieste. J'ai déjà enlevé ma veste et j'ai éteint ma pipe. Disons que j'ai fait un geste, mais ça n'est pas assez. Elle veut que j'enlève le reste, elle dit que je suis coincé. C'est tout ce qu'il me reste, après je n'ai plus rien. De tout on vous déleste, c'est mon slip et j'y tiens. Elle veut que j'enlève mon slip, mais sans slip on est nu. Pour moi c'est l'inconnu. Et c'est pour ça que je flippe. En effet je suis vierge, j'ai jamais fait l'amour. Malgré mes 40 berges, je suis comme au premier jour. C'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien, de tout on vous déleste. Je suis vierge et j'y tiens. C'est tout ce qu'il me reste. Elle dit que ce n'est pas grave, que ça peut s'arranger, que j'ai qu'à m'allonger. Ce satané slip que je ne veux pas enlever, même pas pour le laver. J'ai trop peur qu'on me le chip. C'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien, de tout on vous déleste. C'est mon slip et j'y tiens. Elle me dit petit Philippe, je vais tuer quelqu'un si tu me donnes pas ce slip. Seulement moi j'en ai. C'est mon slip et j'y tiens. C'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien. De tout on vous déleste. C'est mon slip et j'y tiens. C'est tout ce qu'il me reste. C'est tout ce qu'il me reste.
Faites vos valises. Restez sur MDM.
Et puis je signalais comme ça en passant, très chère Margot, que les aventures autour du slip de Thomas Fersen vous ravissent.
Hein, j'adore.
On peut le dire, ouais, c'est vrai.
Ouais, ce morceau me met en joie systématiquement.
Ah, mais j'ai vu. Dommage qu'on n'ait pas pu voir d'ailleurs, hein, sur les ondes, très chères auditrices, auditeurs.
Ma chorégraphie.
Ah là là, mais alors j'avais oublié comment bouger votre corps. Mais c'est très très bien, Margot, c'était splendide. On repart avec.
Tu m'étonnes.
Ah, mais oui. On tutoie. Ok, on tutoie. Qu'est-ce qu'on fait, Margot Hendermann?
Oui, on repart avec Isa et les Jardins Reconnaissants. Et les Jardins Naïfs, mais les Jardins Reconnaissants aussi. Un petit featuring.
Okay. Vous nous avez présenté votre parcours, ce projet de vie qui devient réalité, qui devient expérience collective. Vous embarquez les autres avec vous. Mais j'ai bien envie de remonter un peu plus en avant, comme pour les arbres, d'aller à la racine. Est-ce que vous avez à partager avec nous un souvenir, une émotion, une anecdote de vous, enfant ou adolescent, avec justement les arbres ou la nature? Je crois qu'on parle gourmandise de ce côté.
Ah oui, toujours gourmandise chez moi. Oui, moi je suis petite fille d'immigrés italiens qui ont toujours travaillé la terre, qui étaient maraîchers, et donc avec une grand-mère qui avait toujours les mains dans la terre. Et il y avait deux arbres fruitiers sur leur terrain, un prunier Reine Claude et une variété de cerise noire. Et je me souviens, enfant, que ma grand-mère nous envoyait avec le panier avec mon cousin récolter ces fruits-là et qu'on passait des heures, en fait, à les manger plutôt qu'à les récolter et qu'on finissait souvent la journée en ayant très, très mal au ventre, en étant malade. Mais c'est des excellents souvenirs à toi, à moi, de chacun dans un arbre à manger ces fruits à la saison.
Tout à l'heure, tu disais c'est quelque chose d'universel, la gourmandise. Et toi, David?
Moi, c'est un souvenir personnel d'enfance. J'ai planté, alors je ne pourrais pas vous donner l'année exacte où j'ai planté ça, j'ai planté des noyaux d'abricotiers qu'on avait achetés avec mes parents, sûrement dans un supermarché. Et il s'est avéré que c'était des abricots du Roussillon et qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, je pense qu'ils ont une bonne trentaine d'années. Ils ont déjà produit plusieurs fois des abricots. Et ils sont excellents d'ailleurs. Et du coup, cette année, on profite. Le fait est que la pépinière s'ouvre, le verger soit mis en place. Ces deux individus, les abricotiers du Roussillon, iront dans le verger. Alors on essaiera de les protéger du printemps, parce que c'est pas trop leur lieu d'habitation. Ils sont plutôt du sud de la France, mais c'est des arbres qui sont. C'est des arbres à des fruits qui sont absolument excellents, qui n'attrapent pas de maladies ou très peu, qui sont très rustiques. Et voilà, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai eu avec ces arbres-là qui m'ont suivi depuis au moins une trentaine d'années, quoi.
C'est quand même assez exceptionnel.
Oui, depuis les voir en container et d'envisager qu'on va pouvoir enfin les mettre en terre, enfin. Ouais, c'est chouette.
Manger les abricots.
Et enfin manger, ouais. Manger les abricots, c'est clair.
Merci pour ce partage. Ça, c'était la partie souvenirs. Alors, on revient aujourd'hui et maintenant dans les Landes et peut-être même très précisément à Carcarès, avec un arbre à mettre en avant pour son intérêt, son esthétique, ou en tout cas peut-être parce que c'est votre coup de cœur.
Ouais, moi c'est, je crois que c'est notre coup de cœur sur les lieux ici, c'est ce qui nous a décidé à acheter cette parcelle. Il y a quand même 8 hectares boisés de peupliers, et aujourd'hui, voilà, le peuplier pour tout ce qu'il représente, déjà le côté coup de cœur du lieu. Et puis c'est un arbre qui a un port qui est quand même assez sympathique, qui ramène énormément de biomasse, donc c'est plutôt intéressant sur l'apport dans les sols, surtout sur des sols sableux. Et puis voilà, c'est son côté, c'est le vent dans les feuilles qui nous ramène aussi à notre région du bassin d'Arcachon, région d'origine. On a souvent l'impression de se retrouver au bord de l'océan, donc c'est un coup de cœur pour cet arbre-là qu'on va en partie récolter et replanter, parce qu'il y a quand même cette filière qu'il faut continuer à développer. Et voilà, je trouve que c'est un arbre qui se prête bien à être mis en avant, parce que voilà, il y a beaucoup de qualités.
Merci. Et pour finir en beauté, donc, parce qu'on l'a déjà dit, la gourmandise est une qualité très répandue. Et avec la pépinière aussi, on est vraiment au meilleur endroit pour avoir les bons conseils. Quel arbre ou quel arbuste fruitier vous pouvez conseiller aux auditeurs et aux auditrices de Radio MDM?
Alors moi, en tant que pépiniériste, c'est Grégory, vous en parlera après. Moi, cette année, on va essayer de retrouver quand même pas mal de nashi. Alors, qui est un fruit, alors qui n'est pas un hybride entre la pomme et la poire, ce que tout le monde pourrait croire, qui est vraiment un fruit à part entière. qui est pas très aromatique mais très sucré avec beaucoup de jus, qui ressemble grosso modo à une petite pomme, mais qui a la chair d'une poire à l'intérieur. Donc c'est pour ça que la confusion a souvent été faite. Et j'étais persuadé pendant très longtemps qu'il en existait très peu de variétés, et en fait il en existe une bonne quinzaine de variétés, sachant que ça vient beaucoup du Japon et de Chine principalement. Et donc toutes les formes de fruits sont trouvables là-dedans. Après il faut juste avoir les bons porte-greffes. Ce qu'on a fait cette année, on a fait en sorte de s'équiper des bons porte-greffes pour pouvoir greffer des nashis dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est un petit coup de cœur, un petit coup de cœur savoureux, on va dire. Parce que c'est très fin et c'est très agréable comme fruit.
Mais on va te laisser le temps de le mettre en production ici et on viendra s'équiper alors.
Ah oui, avec plaisir.
Et toi, Aurélie ?
Alors moi, c'est une découverte de cette année, comme quoi on en apprend tous les jours, où j'ai découvert le feijoa. Et depuis, on en a mis dans le jardin. Et en fait, j'ai adoré ce fruit et sa saveur et ce côté, justement, tellement atypique dans son goût. Et j'en ai surtout adoré la confiture. Voilà, plus que frais, j'ai adoré la confiture. Donc, voilà, c'est un vrai coup de cœur. Finalement, c'est pas un arbre qui monte très haut, mais qui peut être très productif. Et alors, j'ai David qui me fait signe. Mais...
Il fait signe que alors, si, quand même, ouais. Ça peut monter
le feijoa,
un peu.
Alors, oui, le feijoa, c'est un arbre qui vient d'Amérique du Sud, qui est le. Alors, faux goyavier ou quelque chose comme ça. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne suis pas sûr de ma réponse. Mais par contre, alors, c'est un arbre qui a la particularité d'être pollinisé par les oiseaux uniquement, pas par les insectes. Ce sont des arbres qui. Alors, vous avez l'obligation, quand vous achetez un feijoa, d'acheter deux individus de feijoa, parce que ce sont des arbres qu'on appelle autostériles, il me semble, et qui ne peuvent pas se féconder eux-mêmes. Ils feront des fruits, mais en très petite quantité et de très petit calibre. Par contre, si vous avez plusieurs individus, l'arôme des fruits va augmenter, la taille des fruits va augmenter, et surtout la quantité. Ce qui est très sympa, c'est que c'est un arbre qui est persistant, donc ça garde toutes ses feuilles l'hiver, c'est très joli. Ça ressemble un peu à un arbousier, mais avec des feuilles un peu plus blanches sur l'intérieur. Mais c'est très rustique, et puis ça a besoin de quasiment rien, et ça fait des fruits à chaque année. Si ça prend de l'eau, ça fait des fruits, ça résiste dans les sols très arides. C'est un arbre qui est très intéressant, je trouve, et qui va avoir sa place dans les prochaines années.
Dans les jardins. Ouais. Bon, une bonne idée. Mais écoutez, merci beaucoup, beaucoup Aurélie et David. Merci les Jardins Naïfs pour votre accueil, pour cet échange et pour vos conseils de plantation.
Et merci à toi, ma chère Isa, pour cette idée de nouvelle chronique fort enrichissante que l'on retrouvera une fois par mois dans les Margoguettes.
Génial.